Alors, le sommet Trump-Kim Jong-un.
Ouais, quoi penser de ça? C'est parce que le premier réflexe... je pense que c'est le New York Times qui avait une analyse. Il disait, bon, ben, ils vont s'échanger des mots plutôt que des missiles. Là, comment ne pas s'en réjouir à première vue? Là, puis c'est un peu le premier réflexe qu'on a. Dit, bon, il y avait une escalade. On avait le sentiment que Trump voulait utiliser ça peut-être pour faire une démonstration militaire éventuellement. Les autres préparaient leurs missiles nucléaires. Tout à coup, ils vont se parler. Fait que, tu sais, le premier réflexe, qui je pense qu'il a été un premier réflexe planétaire, c'est de saluer ça, c'est de voir ça comme quelque chose de positif. Je suis quand même, moi, sceptique. D'abord, je trouve que sur le plan politique, là, c'est un signe de faiblesse terrible de Donald Trump après tout ce qu'il a dit, puis qu'il l'a appelé Rocketman, puis tout ça. De se retrouver forcé, hein, parce que c'est un peu à cause de la Corée du Sud qu'il doit mettre une pression sur lui. Eux, ils veulent régler ça dans leur coin du monde. Mais le président Trump, je trouve, est comme aspiré dans cette rencontre-là avec un dictateur, un des plus loufoques sur la planète, mais à part d'être loufoque, là, il tue du monde là, dans son pays, et quand ça fait pas son affaire, là, je veux dire, c'est moins loufoque, là, je veux dire, c'est des êtres humains, que ce soit ses ministres, ses hauts fonctionnaires, là, il en a mis sur un champ de tir, il les mettait sur une espèce de champ de tir, puis il leur envoyait un missile pour faire du spectacle avec un assassinat public. Mais c'est ça la démocratie. Tout ça après un procès d'une douzaine de minutes, là, présidé par Kim Jong-un lui-même, là, t'sais. Fait que c'est pas... C'est ça le rencontre, le leader qui s'en va rencontrer, c'est pas nécessairement glorieux. Et Kim Jong-un fait toutes ses démarches, là, de son programme nucléaire, ses missiles, tout ça. Là. Il fait ça pour quoi? Il fait ça pour un but, une chose, être pris au sérieux, avoir une reconnaissance internationale, être pris comme un leader qui, parce qu'il fait peur, parce qu'il pourrait être fou et dangereux, va devenir un interlocuteur dont il faut tenir compte, un interlocuteur qu'il faut prendre au sérieux. Puis organiser un sommet avec le président américain, mais pour lui, je m'excuse, c'est la réussite suprême de toute son opération de bouffon. C'est la réussite suprême, un sommet avec le président des États-Unis. Ça aurait été ça, la résultante. Fait auprès de son peuple, lui, là, t'imagines-tu le succès? T'imagines-tu qu'à quel point, lui, il se dit, wow, là, t'sais, moi, mes missiles, puis tout mon programme nucléaire, puis tout ça, hey, ça a-tu marché? Regardez ça, là, le président américain, maintenant, nous rencontre dans un sommet sans précédent.
Mais c'est réel, néanmoins. C'est vraiment... Oui, oui. Ils ont vraiment l'âme nucléaire. Parce que ce que tu reconnais là-dedans, à tout le moins, c'est de dire, ben oui, qu'on fasse n'importe quoi, la Corée du Nord a développé des armes nucléaires. Qu'est-ce qu'elle va en faire? Et c'est très inquiétant quand on regarde effectivement Kim Jong-un. On se dit, mais il est complètement sauté, malade, et donc il y a un risque qu'on saute. Est-ce que ça justifie une rencontre avec les États-Unis? Au niveau diplomatique, tu l'as bien dit, c'est perçu comme une victoire d'une qui ne mérite pas une rencontre avec notre big brother américain, avec le président Trump. Ça, c'est la position de bien des pays. Et dans le fond, d'abord, on ne sait pas si ça va avoir lieu, on ne sait pas où ça va avoir lieu, puis quelles seront les conditions. Mais ce qu'on ignore surtout, il y a deux choses qu'on ignore. C'est quels seront les résultats de cette rencontre-là? Est-ce que ça va donner quelque chose? Est-ce que c'est imaginable qu'un petit pays qui a obtenu une telle victoire en nucléarisant son pays, avec toutes les ressources que ça implique, va accepter de dénucléariser ses forces militaires. C'est pas évident. L'autre aspect qui me frappait, moi, c'est à quel point cette décision-là de Trump, qui peut sembler être celle d'un leader qui est habitué à faire des ententes commerciales, à faire des deals, puis qui parie, parce que je pense que c'est perçu comme étant un pari, ça va à l'encontre de toute l'histoire des relations entre les États-Unis et la Corée du Nord. Celle de Bush, c'était lui, il avait vraiment peur, puis c'était des répressions, une répression économique. Celle d'Obama, ça, j'avais oublié ça, mais il a conclu une espèce de trêve avec la Corée du Nord quand il était là, mais une trêve qui n'a pas duré plus que quelques semaines. Parce
ça n'a pas
été
respecté.
Ça n'a pas été respecté du tout. Donc, mais ça va quand même à l'encontre d'un mouvement diplomatique. Est-ce que... Et c'est majeur pour Trump, moi, je pense, parce que le Paris qui fait pourrait, en quelque sorte, justifier plusieurs de ces décisions aberrantes, celles qu'il a connues depuis qu'il a été élu. Il y a plein de gens qui sont d'une critique totale, qui pensent que c'est quasiment...
En tout cas, il a court-circuité les circuits officiels.
Complètement.
Parce que les gens de son entourage disaient, écoutez, on a cette proposition-là, il faut dire non, il faut...
Il faut au moins demander des garanties. Au minimum, il aurait fallu demander des garanties supérieures à la Corée du Nord avant même d'évaluer l'option. Là.
Et lui, ça, l'autre soir, tu comprends, il tweet, on a une offre, puis moi j'accepte, puis la rencontre va avoir lieu.
C'est un pari. Parce que c'est un guess.
Ouais. Ce qui n'est pas clair, là, c'est que l'expression dénucléariser, qu'est-ce que la Corée du Nord entend par ça? Puis moi, je lis deux versions de ce que ça pourrait être. Normalement, là, si on veut être sérieux, ça veut dire défaire ses capacités de production nucléaire, même détruire ses propres armes nucléaires, ça veut dire reculer sur le nucléaire. Ce que j'entends, c'est qu'en Corée du Nord, ce qu'ils sont prêts à offrir présentement, puis ce qui rassure la Corée du Sud, c'est qu'ils vont arrêter de faire des essais de missiles, puis tout ça, ils vont arrêter de faire leurs essais. Parce que, semble-t-il, qu'ils sont rendus assez avancés dans leur programme, que maintenant, ils pourraient continuer leur programme nucléaire, mais en se contentant de faire des essais par forme de simulation informatique. Tu sais, tu vas simuler par informatique tes essais nucléaires. Si c'est ça, c'est pas une grosse dénucléarisation, puis ça mérite pas vraiment. En tout cas, je pense pas qu'on pourrait dire au sortir d'un sommet que les Américains auraient obtenu des gains ou proportionnels au cadeau qu'ils lui ont fait en organisant le sommet, en donnant à Kim Jong-un la reconnaissance voulue. L'autre affaire que la Corée du Nord va probablement demander, c'est que les États-Unis se retirent. Les États-Unis, à cause de la Corée du Nord, à cause de la menace, ça leur a fait une raison, un prétexte excellent pour être présent dans la région.
En Corée du Sud, vous avez leur base.
En Corée du Sud.
Leur base militaire.
Et, je pense que les Chinois seraient les premiers, seraient bien contents de voir les Américains plus avoir de raison d'être là puis quitter. Mais pour moi, les Américains, ils n'hésitent pas ça à être là. Donc, est-ce que les Américains vont être prêts à parler de cette hypothèse-là, de se retirer de ce qu'ils ont comme base, comme essai, comme activité militaire dans la région?
Ce qui semble clair, c'est que la Chine aurait vraiment appliqué la pression économique et puis qu'une des raisons qui justifie cette demande-là de la Corée, c'est le fait que ça commence à être lourd au niveau de leur économie. Et dans le même sens, moi, je me dis, si tu as un atout de cette valeur-là dans ton jeu comme pays, c'est sûr que tu renonceras pas complètement au développement nucléaire auquel tu es parvenu. Mais tu peux avoir besoin, par exemple, de faire diminuer la pression économique des deux côtés. Que les pressions extérieures te donnent un peu d'espace de liberté, puis que le poids de nucléariser une nation puis de construire des lance-bombes et tout ça, ça doit être énorme au niveau de la... Donc, qu'il y ait une pression économique interne forte, ça, moi, je pense que c'est crédible. Mais je finis avec ça, mais c'est vraiment étrange comment tu regardes ces nouvelles-là puis tu te demandes ce qu'il faut penser ou ce qu'on peut penser. L'espèce de l'impression que ça se passe tellement dans une zone...
Mais t'as l'impression que ça aura peut-être même pas lieu.
Peut-être.
Peut-être un coup de tête, puis là, il va annuler ça sur...
Mais mettons que ça a lieu, là. Faut toujours penser qu'un sommet comme celui-là... Là, les grands stratèges, puis les vrais diplomates, là, je parle pas de Trump, ses coups de tête, mais ils pensent aussi au danger de l'échec d'un sommet. Et dans ce cas-ci, est-ce que l'échec pourrait ramener une nouvelle escalade? Ou, c'est ça aussi, là. Si tu t'entends pas, ça peut avoir l'effet... La tenue d'un sommet peut avoir l'effet inverse. Puis là, tu as deux personnages hautement imprévisibles, pas remarquablement sérieux dans leur façon de préparer un sommet comme celui-là. Tu mets deux personnages à l'avant-scène, puis ça va être ça le prochain sommet Corée du Nord États-Unis. Wow,
il y a eu un tweet où il disait, mais ça se pourrait très bien, vous savez que si ça marche pas, je me lève puis je quitte. J'ai lu ça tantôt. C'est Trump qui dit
quoi,
ça.
Son entourage ne sait même pas ce qui va arriver.
Non, c'est ça qui n'a pas d'allure.
C'est encore plus cosmique. Là. Merci beaucoup. On vous retrouve demain, 8h54. L'autoroute 20. C'est Will.